C'est la mère de toutes les médecines.
Elles sont plus de 100 millions de milliards dans votre corps et représentent à elles seules 10% de votre poids total.
Les mitochondries, on va parler du parc mitochondrial, de s'intéresser à ces structures dont leur vie dépend, de leur santé dépend. On pourrait peut-être essayer de démocratiser le concept. On parlera également de mitobiote. Il y a une relation microbiote-mitobiote extrêmement fondamentale. Vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi et comment. Eh bien, la réponse, c'est que un truc de ouf, check, c'est très bien.
Merci.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique.
Aujourd'hui, nous allons parler de nos propres centrales électriques. Elles sont plus de 100 millions de milliards dans votre corps et représentent à elles seules 10% de votre poids total. Ces structures, ce sont les mitochondries. J'en avais jamais entendu parler avant d'arriver chez Sunday, et pourtant, j'apprends qu'elles seraient de véritables chefs d'orchestre pour votre métabolisme, votre immunité et même votre processus de vieillissement. Entre stress, pollution environnementale, manque de lumière naturelle et alimentation transformée, notre mode de vie moderne mettrait ces centrales à rude épreuve. Et lorsque ces centrales s'épuisent, ce serait tout notre corps qui décroche. Fatigue chronique, brouillard mental et à terme le développement de maladies chroniques. Alors pourquoi et comment protéger ce précieux parc mitochondrial ? Pour répondre à ces questions, j'ai l'honneur d'avoir avec moi un pionnier et une figure reconnue sur le sujet, professeur Vincenzo Castronovo. Bonjour professeur.
Bonjour Noémie.
Je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui.
Ravissement partagé.
J'ai essayé de résumer un peu votre CV qui est bien fourni quand même. Donc vous me dites s'il manque quelques informations qui seraient importantes à mentionner. Vous êtes docteur en médecine et en sciences biomédicales, gynécologue obstétricien et chercheur avec plus de 300 publications à votre actif. Ça fait plus de 30 ans que vous vous consacrez à développer et à enseigner la médecine micronutritionnelle et fonctionnelle. Et vous venez de sortir un ouvrage intitulé « Mitochondries, source d'énergie, de santé et de longévité ». Donc, félicitations pour cette sortie.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Merci aussi, du coup, de consacrer cet échange sur le sujet. Je pense qu'on en a parlé assez régulièrement dans le podcast, mais c'est bien, du coup, de passer du temps sur ça. Et en ouverture de balle du podcast, je pose pratiquement toujours la même question, donc elle est peut-être surprenante. Mais dans Sunday Naturelle, il y a le mot naturel, bien sûr, mais il y a aussi le mot dimanche. Et du coup, ma première question, c'est, il ressemble à quoi votre dimanche ?
Mon dimanche ressemble souvent à tous les autres jours.
Ah oui.
À savoir que le dimanche, ben, c'est un peu plus cool, mais souvent, c'est consacré à reprendre des dossiers qui n'ont pas été faits la semaine. Donc, c'est quand même du travail. Beaucoup de cours à préparer, beaucoup de séminaires et bien sûr, du temps consacré aussi à la famille, évidemment, important. Mais,
du coup, vous faites tout à votre rythme, quoi.
Je fais tout à mon rythme, voilà.
Très bien. Comme je disais, du coup, les mitochondries, c'était déjà mentionné dans le podcast. Vous venez de sortir un livre, du coup, sur la santé mitochondrielle. Et donc, il y a clairement un intérêt de la communauté scientifique, médicale, thérapeutique pour le sujet. Mais en faisant un petit sondage, moi, dans mon entourage et sur les réseaux sociaux de Sunday, je me suis rendu compte que c'était pas forcément un sujet qui les intéressait, surtout parce que il manquait de connaissances dessus ou que c'était peut-être un niveau de complexité qui était pas forcément à la portée de tout le monde. Donc pourquoi il faudrait que le grand public s'y intéresse ?
Mais écoutez, c'est une très bonne question, Noémie. D'abord, le mot mitochondrie fait un peu peur. Donc mitochondrie.
On n'en parle pas même dans nos cours d'SVT ou au lycée.
Non. Donc je pense qu'on en parle quand même. Non pas la centrale électrique, mais la centrale productrice d'énergie. Vous savez que la vie est le résultat de l'interaction de la matière et de l'énergie. Lorsqu'il n'y a plus d'énergie, il y a la mort. D'accord ? C'est une des caractéristiques de la vie, c'est l'arrêt complet du métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi ? C'est l'ensemble des réactions chimiques qui construisent et déconstruisent la matière et qui assurent le fonctionnement de nos cellules, de nos tissus, de nos organes et de l'organisme entier. Alors, comme vous l'avez bien dit, c'est un livre que j'ai intitulé « Mitochondrie ». Et c'est mon premier livre, figurez-vous, parce que d'abord, ça prend du temps, c'est une responsabilité. Et j'attendais d'avoir un peu de temps, même si j'en ai pas beaucoup, pour essayer de mettre à plat, avec des concepts simples, tout en restant juste et scientifique, pour notamment donner l'envie à la population profane de s'intéresser à ces structures dont leur vie dépend, de leur santé dépend de manière incroyable. Mitochondries qui en fait sont non seulement à la base de production d'énergie, mais ont acquis énormément de fonctions et de rôles dans l'organisme. Et donc j'imagine qu'on va en parler au fur et à mesure. Donc ces mitochondries, vous l'avez dit, 10% du poids, elles sont présentes au nombre de plusieurs milliers par cellule, et les cellules qui ont l'activité métabolique la plus importante, qui consomment beaucoup d'énergie, sont celles qui en détiennent le plus, pour lesquelles elles sont hyper importantes. Par exemple, notre cerveau qui consomme 20% d'oxygène, nous respirons 20%, donc un cinquième, eh bien, ont une activité mitochondriale extrêmement importante. Alors, les mitochondries, on va parler du parc mitochondrial, c'est-à-dire l'ensemble des mitochondries qui sont présentes dans notre corps. Et d'autre part, on pourrait peut-être essayer de démocratiser le concept. On parlera également de mitobiote. Je pense que si vous interrogez ceux qui suivent votre podcast et vous demandez que savez-vous du microbiote, il n'y a pas de souci. Donc le microbiote est aujourd'hui passé dans le langage commun et tout le monde sait que le microbiote joue un rôle important pour la santé, okay, fondamental, qui contrôle quasi l'ensemble des systèmes. Ce microbiote dont l'essentiel se trouve à l'intestin et il représente 2 kilos, un organe extra-humain fondamental. Et alors ce que vous allez découvrir au cours de ce podcast, c'est que ce microbiote, il est hyper important parce qu'il est raccord et qui conditionne le fonctionnement des mitochondries, donc du mitobiote. Il y a une relation microbiote-mitobiote extrêmement fondamentale. Vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi et comment. Eh bien la réponse, c'est que les mitochondries sont des bactéries ancestrales qui, il y a 1 milliard 300 millions d'années, ont pu dompter les velléités toxiques de l'oxygène. En fait, l'oxygène en a besoin pour vivre, mais au début, tout au début, il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère et c'est apparu qu'une molécule extrêmement toxique. Une des caractéristiques de l'oxygène, c'est qu'elle est très friolante d'électrons. Elle est très électrophile, c'est-à-dire qu'elle va essayer d'arracher des électrons à tout qui peut lui en donner. Ok? Et d'ailleurs, l'action de perdre ces électrons est souvent le propos de l'oxygène, et on va parler d'oxydation, de rouille. Hein. Vous savez qu'à une époque, il y a quelques dizaines d'années, les voitures italiennes avaient la triste réputation, même si elles étaient très belles, de rouiller très vite, parce qu'elles étaient conçues pour des pays chauds comme l'Italie. Et donc, c'était le propos de l'oxygène. Bien, figurez-vous qu'une cellule rouille également, s'oxyde, et ça a des conséquences dramatiques, évidemment. D'abord, vous voyez que quand vous regardez votre photo d'il y a 20 ans, vous voyez que votre visage a changé, et je pense que d'ici 30-40 ans, il aura changé. C'est l'effet de l'oxydation, qui va en fait modifier nos molécules, notamment nos gènes. Okay? Donc, à partir du moment où vous comprenez que cette mitochondrie est d'origine bactérienne et qu'elle a dompté l'oxygène, mais elle n'a pas fait comme ça pour s'amuser, elle l'a fait parce qu'elle avait une idée derrière la tête, c'est de pouvoir extraire un maximum d'énergie utilisable, l'ATP, vous avez entendu parler de l'ATP, adénosine triphosphate. Alors l'ATP, non seulement c'est une molécule qui rentre dans la composition des acides nucléiques, mais également c'est la monnaie énergétique universelle, c'est-à-dire que l'ATP se transforme en ADP et lors de ces réactions, elle va libérer beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie qui peuvent être utilisées pour faire toutes ces choses. Un peu une transformation d'énergie chimique en énergie éventuellement mécanique. Quand, par exemple, je bouge le bras, eh bien, j'ai hydrolysé des milliards de molécules d'ATP au niveau de mes fibres musculaires squelettiques. Alors, le cœur, c'est 40% du poids du cœur qui fait le tam-tam de la vie depuis le 18e jour post-fertilisation jusqu'à votre dernier souffle, eh bien, 40% du poids, ce sont des mitochondries. Donc, c'est quand même hyper important.
Et je vois que, du coup, si on parle d'ATP, c'est lié à l'énergie, à la fatigue, à la performance sportive, au vieillissement, là, tout ce que vous avez déjà mentionné. Est-ce que, du coup, on peut quand même revenir un peu à la base pour expliquer quand même comment ces mitochondries elles produisent de l'ATP, juste pour être
sûr. Oui, bien sûr. Donc, d'abord, vous, moi et ceux qui nous écoutent produisent en moyenne entre 40 et 50 kilos d'ATP par jour. Ça fait environ 50 grammes toutes les 90 secondes. Hein. L'ATP ne se stocke pas, Il y a une quantité limitée, environ 50 grammes tout le temps dans le corps, mais il doit être fourni tout le temps. Alors, là, il faut revenir aux origines. Okay. Au départ, on va utiliser comme carburant pour produire l'ATP le glucose. La première voie, le premier chemin permettant de produire de l'ATP, c'était la glycolyse. La glycolyse va oxyder le glucose en pyruvate, il le découpe en deux, et lors de ce processus, il extrait de l'énergie, et le bilan global de la glycolyse, c'est 2 molécules d'ATP par molécule de glucose. Mmh. Et en fait, l'essentiel de l'énergie se trouve dans ces 2 molécules de pyruvate. Ce que la bactérie originelle de la mitochondrie a inventé, c'est un processus qui va oxyder complètement le pyruvate en CO2 plus de l'eau et récupérer par molécule de pyruvate 18 molécules d'ATP. Mmh. Ce qui veut dire qu'on a multiplié par 9 la rentabilité énergétique, comme je dis souvent pour que les gens se réalisent. Imaginez que demain, votre véhicule consomme 18 fois moins. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire 100 km, non pas avec 9 litres, mais avec 1 demi-litre. Mmh. Hein.
C'est fou de se rendre compte à quel point notre corps est capable de beaucoup de choses.
Ah, la rentabilité énergétique de la mitochondrie est largement supérieure à la rentabilité énergétique, évidemment, d'un moteur thermique. Mmh. Et au départ, il y a peu d'oxygène dans l'atmosphère, environ 2%. Très peu. Et c'était des conditions propices à la création, à la construction de la vie. Le problème, c'est que l'énergie était basée sur l'oxydation de substrats qui étaient limités. Et donc, il y a une autre bactérie, qui a inventé un truc de ouf, hein, de fou, c'est d'apprivoiser l'énergie du soleil. Mmh. L'énergie du soleil qui est virtuellement une source intarissable d'énergie, et elle a converti l'énergie de photons en énergie d'électrons qui va servir, en fait, à produire du glucose. Mmh. Okay, c'est la photosynthèse.
C'est pour ça que vous avez fait un chapitre sur la lumière naturelle.
Ah, absolument, la lumière, c'est la source de vie. Hein. Et quand votre chéri, votre maman vous dit « tu es mon petit soleil », il y a un peu quelque chose qui vient avec l'origine de la vie, hein, puisque le soleil est source de vie. Hein. Donc ces cyanobactéries ont inventé la photosynthèse et la réaction de base, c'est 6 molécules de CO2 plus 6 molécules d'eau plus le soleil donne 1 molécule de glucose, C6H12O6, plus de l'énergie, plus de l'oxygène. L'oxygène, à cette époque, est un déchet, un gaz toxique. Pourquoi ? Parce qu'il veut arracher absolument les électrons pour compléter son atome, qui lui manque 2 électrons pour atteindre l'état d'atome parfait, okay ? Inerte. Et donc, il va passer sa vie, l'oxygène, à essayer de capter ses électrons. Malheureusement, il lui arrive pas mal de mésaventures et comme cet appétit n'est pas contrôlé, c'est une espèce de passion morbide, il va souvent se transformer en radical libre, un agent oxydant extrêmement toxique. L'oxygène, au début, il a commencé à attaquer les organismes vivants, les cellules, qui ont dû s'enfoncer dans les profondeurs abyssales, puisque l'oxygène est un gaz, va monter vers l'atmosphère, vers la surface de l'eau, ok. Et donc, il va commencer à s'accumuler. Aujourd'hui, on a environ 20% de l'oxygène dans l'atmosphère, 20,2%. Et figurez-vous que si on fait des expériences, on met des souris avec une pression d'oxygène où on va à 30%, les souris vont vieillir beaucoup plus vite et leur longévité va être raccourcie. Parce que l'oxygène va accélérer le vieillissement par oxydation, par rouille. Mmh. Okay. Dans ce contexte d'environnement toxique pour l'oxygène, cette bactérie, qui est un peu géniale, va inventer un système où elle va tempérer les velléités électroniques de l'oxygène en lui disant, écoute, tu vois, quand tu prends un électron à n'importe quelle molécule et que tu ne mesures pas son énergie, tu transformes en radical libre et là, tu meurs. Mmh. Okay. Des électrons, je vais les refroidir pour qu'ils correspondent à la bonne température pour que tu sois heureux, heureuse. Hein, on va dire que l'oxygène est féminin.
Et du coup, elle utilise l'énergie après pour autre chose.
La bactérie qui deviendra mitochondrie va extraire petit à petit l'énergie des électrons qui sont dans les liaisons qui ont construit le pyruvate et le glucose à l'origine, okay, et va le récupérer petit à petit pour que ce soit de l'énergie gérable. Okay. Parce que si vous libérez toute l'énergie en une fois, ça fait une explosion. Et à la fin de ce processus qu'on appelle la chaîne de phosphorylation oxydative, c'est-à-dire on va phosphoryler l'ADP en ATP, c'est sa phosphorylation, ok, par un chemin. C'est un petit peu comme si vous aviez une cascade, ok, et que plutôt de faire tomber l'eau d'un coup, vous allez mettre des petits moulins à chaque fois pour ne pas avoir ce risque que toute l'eau soit assez destructrice. À la fin de ce cheminement, il y a des moulins qui vont récupérer l'énergie des électrons, ok. Et à la fin, au troisième moulin, l'électron, il est à bonne température, l'oxygène reprend les électrons et reforme une molécule d'eau. Et donc, on a l'inverseur photosynthèse, C6H12O6 plus 6 molécules d'oxygène donne 6 molécules de CO2 plus 6 molécules d'eau plus de l'énergie sous forme d'ATP. Okay. Et donc, on a bouclé la boucle. Et évidemment, cette capacité de dompter l'oxygène pour en faire un allié pour extraire un maximum d'énergie du carburant qu'est le glucose va donner envie aux cellules eucaryotes, des cellules qui avaient un noyau, parce que les bactéries sont des procaryotes, elles n'ont pas de noyau, de s'acoquiner avec la mitochondrie. Elles l'ont accueilli, elles l'ont endocyté, c'est-à-dire elles vont les cellules au départ manger leur proie en les phagocytant, c'est-à-dire qu'elles vont les envelopper, les intégrer et puis les digérer à l'intérieur grâce à des estomacs internes qu'on appelle des lysosomes. Et là, le contrat, c'est tu rentres, on te mange pas et tu continues à produire l'énergie pour nous. Et ça a des conséquences parce que maintenant, la bactérie qui avant était dans un environnement changeant se trouve dans le cytoplasme, l'intérieur de la cellule qui est stable. Mais avec la condition que la cellule doit lui apporter les nutriments, puisque maintenant elle devient tributaire de ce que la cellule va lui donner, puisqu'elle n'est plus libre dans l'environnement, d'accord ?
En plus de ça, comme elles ont évolué, je me demande même si on peut faire en sorte de les faire évoluer pour qu'elles soient encore plus efficaces.
En 1 milliard à 300 millions d'années, elles ont évolué, elles sont tellement importantes que la cellule lui a confié énormément d'autres missions dont on va parler plus tard, si vous voulez. Alors, donc, pour vous dire que ces mitochondries, ils ont des bactéries ancestrales hein, qui ont gardé les caractéristiques de bactéries. C'est-à-dire qu'elles ont la membrane interne à la même composition que la membrane des mitochondries, elle n'a pas de cholestérol. Okay. C'est là que sont organisés tous les systèmes de récupération d'énergie, tous les petits moulins. La membrane externe, quant à elle, elle a la même composition que la membrane de la cellule qui l'a accueillie. Okay. Et donc, il y a une double membrane avec un espace intermembranaire et un espace matriciel. Ces mitochondries vont vivre selon leur rythme, mais également contrôlées par la cellule à un moment donné. Donc il va y avoir une alternance entre fission, elles se divisent comme les bactéries par fission, et puis elles vont mourir. Et elles vont être récupérées, là elles vont être digérées. Elles vont être englobées et digérées par les estomacs internes de la cellule qu'on appelle les lysosomes. D'accord. Bien sûr, les mitochondries vont, au fur et à mesure de leur vie, être altérées par des agressions. Vous en avez parlé lors de l'introduction. Les mitochondries sont de véritables biosenseurs des agressions environnementales. Hein. Et comme elles n'ont pas développé vraiment de système de défense majeur, puisqu'elles comptent sur
la cellule,
sur l'hôte, la cellule, okay, elles ont dû compter sur les capacités de la cellule de pouvoir se défendre contre ces agressions. Mais s'il y a une mauvaise défense, ce sont les cibles premières de ces agressions, que ça vienne de l'alimentation, de l'eau, de l'air, ou bien éventuellement de rayonnement électromagnétique.
Si c'est des bactéries, du coup, elles se nourrissent de quelque chose? Elles se nourrissent de graisse? Elles se nourrissent d'autres...
Le premier carburant des mitochondries, c'est le pyruvate.
Donc,
le produit de la glycolyse. Mais au fur et à mesure de l'évolution, elles ont acquis la capacité d'utiliser comme carburant un carburant beaucoup plus énergétique, ce sont les acides gras.
Okay.
Les acides gras qui vont produire 9 kilocalories par gramme, alors que les carbohydrates, c'est 4 calories par gramme. Et entre parenthèses, l'alcool, c'est entre les deux, 7 calories par gramme. Donc c'est plus que du glucose. Donc, beaucoup de patients alcooliques vont développer des problèmes métaboliques parce qu'ils consomment beaucoup trop de calories via l'alcool qu'ils ingèrent. La mitochondrie, donc, va être partie intégrante de la cellule. Elle va devenir, vous imaginez, avec la rentabilité énergétique, ça va augmenter les possibilités de développement. Et je pense que c'est cet événement qui va être responsable de l'évolution remarquable de la vie sur la planète Terre. Okay, avec toutes ces diversifications, parce que on a multiplié par 18 la rentabilité énergétique. Alors, ces mitochondries, aujourd'hui, elles sont à la base de la plupart des maladies. N'importe quel processus pathologique, quand vous suivez le chemin, vous aboutissez toujours à la mitochondrie. Il y avait d'ailleurs le titre d'un livre, d'un article scientifique, pardon, remarquable. Le titre, c'était « Vieillissement, tous les chemins mènent aux mitochondries ». En fait, il y a plusieurs théories du vieillissement, etc. Eh bien, quand vous prenez toutes ces théories, à la fin, vous arrivez à la mitochondrie qui ne fonctionne plus bien. Je vous disais, les mitochondries vont vieillir, d'autant plus qu'elles sont agressées, d'autant plus qu'on ne leur donne pas les nutriments dont elles attendent, puisqu'elles sont absolument dépendantes. C'est un peu comme un petit bébé, si vous ne le nourrissez pas, il meurt. Hein. La mitochondrie, vous ne lui donnez pas les nutriments. Et notamment, dans ces nutriments, il y a des vitamines, il y a des métaux minéraux essentiels, c'est-à-dire qu'il faut absolument lui apporter. Et à un moment donné, quand elles vieillissent, elles vont produire moins d'ATP et plus de toxines, plus de radicaux libres. Ces radicaux libres ont le potentiel d'aller abîmer la cellule, notamment ce que nous avons de plus cher, notre génome nucléaire. Hein. Vous savez que dans le noyau se trouve toute l'information génétique qui permet à nos cellules de fonctionner, qui vont être à l'origine de la différenciation de beaucoup de processus. Et pour vous dire, il y a 3 milliards 200 millions de lettres dont le texte de la vie, le génome humain, c'est 46 livres, 23 paires de livres, 23 viennent de papa, 23 viennent de maman. Okay. Et donc, 2 par 2, ensemble, ça fait 3 milliards 200 millions de lettres. C'est en fait un livre de 10 livres de 1 million de pages, recto verso. Pic douce, simple à ternir. Donc, c'est énorme. Ce génome a des gènes. Vous savez, c'est quoi un gène, Dominique? Hein? Donc, pour rappeler, le gène, c'est la recette pour faire une protéine, ou en tout cas une molécule d'ARN. C'est pas une protéine. Parce que l'ARN, c'est une molécule qui soit donne l'information pour produire une protéine, et nous avons 22 000 recettes qui correspondent à 22 000 protéines, okay, qui doivent être produites telles qu'elles sont prévues. Et elles sont prévues par le texte qui est dont la succession des nucléotides. Vous savez que l'alphabet de la vie au niveau génétique, c'est 4 molécules, adénine, thymine, guanine, cytosine, ATCG. Et l'ordre dans lequel ces lettres sont mises dicte la structure des protéines, parce que les acides aminés qui rentrent dans la composition des protéines sont désignés par des mots de 3 lettres qu'on appelle les codons. Okay? Et si les lettres sont attaquées par l'oxygène radical, par un radical libre, eh bien, la lettre ne peut, et on ne sait plus ce que ça veut dire. Ça va créer une modification dans la recette qui peut avoir un impact majeur sur la qualité de la recette, qui peut être immangeable, qui peut ne plus travailler, qui peut ne plus rien faire. Donc, à un moment donné, quand vous avez des mitochondries qui produisent beaucoup plus de radicaux libres que d'ATP, il y a un risque imminent qui est des mutations au niveau du génome qui vont faire que les protéines ne vont plus être produites comme elles auraient dû être. Les fibres de collagène, les fibres élastiques de la peau vont commencer à ne plus être élastiques, et c'est ça, et puis que la peau va un peu se ratatiner, devenir plus mince et être moins élastique. Donc ça, ce sont les mutations. Bien, le vieillissement est intimement lié au dysfonctionnement des mitochondries. Comment s'en protéger? Eh bien, il y a un processus fondamental qui est la mitophagie.
Ouais, j'ai une question là-dessus juste après, mais je voulais quand même revenir sur le fait que vous avez déjà évoqué le microbiote. Et du coup, c'était quoi le mot que vous aviez dit tout à l'heure?
Le mitobiote.
Le mitobiote. Pourquoi c'est aussi lié au final? Parce que c'était des bactéries avant?
Absolument. Donc aujourd'hui, on sait, et c'est pas depuis longtemps, que les mitochondries, le parc mitochondrial est en connexion constante avec le parc bactérien intestinal essentiellement, puisque nos bactéries, c'est essentiellement les bactéries intestinales, même s'il y a des bactéries à toutes les interfaces. Ces molécules ont gardé le même langage moléculaire. Et donc, quand elles sont raccord, quand il y a une symphonie qui fonctionne bien entre le microbiote et le microbiote, eh bien, tout fonctionne bien. S'il y a malheureusement une altération du microbiote avec une perturbation des molécules produites, cela va donner des signaux qui peuvent faire dysfonctionner les mitochondries. Et on a fait des liens entre microbiote perturbé et fonction cognitive. On a pu prévoir 15 ans avant l'apparition des premiers symptômes qu'un patient était sur le chemin de l'alzhémérisation. Parce que la perturbation constante et chronique de cette communication va finir par altérer les mitochondries. Non seulement ça, mais également les méchantes mitochondries, les bactéries dysbiotiques sont capables de produire des métabolites qui sont mitochondriotoxiques.
Et du coup, il y a besoin de vraiment faire attention à son microbiote pour que
ce soit... Oui. Donc, le fonctionnement optimal du microbiote, du parc mitochondrial, est intimement lié à l'état fonctionnel optimal du microbiote. Donc, vous avez une responsabilité, chacun une responsabilité majeure par rapport à cela, et notamment de ne pas envoyer dans le côlon des molécules qui vont favoriser les méchantes bactéries au détriment des gentilles bactéries qui sont le bifidus, lactobacillus, etc. Donc, on parle de flore eubiotique et de flore dysbiotique. Okay? Donc, la dysbiose est souvent associée à des perturbations au niveau de tous les organes qui consomment beaucoup d'énergie, le muscle, le cœur et le cerveau.
C'est fou. Et il y a un autre truc que je trouvais ça fou et j'avais même un peu peur. C'est pour ça que j'en ai parlé dans l'intro. J'ai lu dans un e-book d'une docteure qui a développé pas mal de produits chez nous, chez Sunday. Elle disait « Les polluants environnementaux et les champs électromagnétiques agressent nos mitochondries ». Je trouvais ça vraiment fort. Et moi qui vis en ville, ça me fait un peu peur. Du coup, je voulais que vous me disiez si c'est vrai ou pas.
Ah, c'est vrai.
C'est vrai. Même les champs électromagnétiques,
on a montré évidemment que les champs électromagnétiques... On a fait des expériences, on a mis des cellules en culture par rapport à des téléphones à proximité commun, et on a des perturbations au niveau fonctionnel et structurel. Les mitochondries gonflent et ne produisent beaucoup moins d'ATP et plus de radicaux libres. Tout à fait vrai. Avec l'avenue de la 5G, etc., on sait que ça aura des conséquences, et notamment au niveau de la fertilité. Et les jeunes qui portent leur téléphone dans la poche proche de leur gonade, eh bien, ont des perturbations, et ça s'est montré au niveau de la fécondabilité de leur spermatozoïde.
Justement, dans votre livre, vous avez aussi montré des liens entre les mitochondries et les hormones, et surtout les hormones de la fertilité et thyroïdiennes. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes là qui nous écoutent et qui sont souvent les plus touchées par les déséquilibres hormonaux. Je me demandais si les mitochondries, elles avaient aussi un rôle à jouer là-dedans.
Les mitochondries jouent un rôle fondamental. J'espère que vos auditeurs seront convaincus. La médecine mitochondriale, c'est-à-dire la médecine qui prend soin de vos mitochondries, c'est la mère de toutes les médecines. Je pense que d'ici quelques temps, toutes les spécialités ne pourront plus faire l'impasse sur l'économie de ne pas s'intéresser au mitobiote de leurs patients, à leur parc mitochondrial. Au cours de l'évolution, les mitochondries se sont vues confier d'autres missions. Une mission importante, c'est la stéroïdogenèse. La synthèse des hormones stéroïdiennes. Vous savez, c'est quoi les hormones stéroïdiennes, hein? Donc, les hormones stéroïdiennes contiennent le cortisol, l'aldostérone, qui est un minéralocorticoïde qui règle la balance hydroélectrolytique au niveau du rein, mais également toutes les hormones sexuelles. Les œstrogènes, la progestérone, la testostérone, ok? Eh bien, ce sont les mitochondries qui sont à l'origine de leur synthèse, à partir du cholestérol. Quand vos ovaires produisent des œstrogènes, les mitochondries vont absorber le cholestérol et produire le précurseur de toutes les hormones, c'est la prégnénolone. Okay? Ça, c'est important. Donc, à partir du moment où vos mitochondries sont fatiguées, il n'y a plus d'hormones. À partir du moment où vous réduisez la source, la matière première des hormones stéroïdiennes, le cholestérol, vous aurez moins d'hormones stéroïdiennes. Okay? Et c'est une des raisons pour lesquelles on voit chez les patients qui sont soumis à l'effet pharmacologique des statines, médicaments anti-cholestérol, on voit des patients qui sont un peu déprimés, qui ont une chute de la libido, etc., parce que leurs hormones stéroïdiennes ne sont plus produites de manière suffisante.
Okay? Et en plus de ça, je sais pas comment ça fonctionne avec le cholestérol après Glenlandon, mais je sais que on a une baisse de ces hormones stéroïdiennes, surtout la progestérone au moment de la périménopause et de la ménopause, et du coup ces signes de dépression aussi, ils arrivent à ce moment-là.
Absolument. Donc Noémie, pour préciser les choses, la progestérone, c'est l'hormone de la maternité. À la périménopause, donc à la ménopause, il y a un arrêt progressif du cycle ovulatoire. La progestérone, elle est produite en deuxième partie du cycle après l'ovulation pour préparer l'utérus et la glande mammaire à la maternité, okay, c'est-à-dire pour accueillir l'enfant. Et donc, il va y avoir des modifications de l'endomètre, la partie qui tapisse l'endomètre. Et le sein va commencer également à se préparer parce que le corps pense que ça va y aller, il y aura un bébé. Okay. Et s'il n'y a pas de bébé, la progestérone chute et c'est ça qui provoque les règles. Okay. En fait, la muqueuse se desquame et les seins qui étaient tendus au début redeviennent moins congestionnés. Par contre, ce que vous devez savoir, si les mitochondries jouent un rôle extrêmement important pour la synthèse des œstrogènes, à leur tour, les œstrogènes sont importants pour l'état de santé du parc mitochondrial. En fait, donc, il y a notre santé et longévité dépend d'un équilibre subtil entre l'élimination des mitochondries les moins performantes, c'est-à-dire celles qui produisent moins d'énergie et plus de toxines, de radicaux libres, et les mitochondries qui sont les plus performantes, qui produisent un maximum d'ATP, d'énergie, et un minimum de radicaux libres.
Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux.
Il y a un équilibre entre les deux que la cellule a mis en place. Ça s'appelle l'équilibre entre la mitophagie et la biogénèse mitochondriale. Eh bien, vous devez savoir que les œstrogènes stimulent la biogénèse mitochondriale. Donc, elles assurent le renouvellement constant de ce parc mitochondrial. À la ménopause, s'il y a une chute drastique des œstrogènes, le parc mitochondrial n'a plus ses stimulations. Il y a beaucoup moins de renouvellement. Et donc, et également, il y aura une accumulation de mitochondries qui produit plus de radicaux libres. Et ceci explique pourquoi, en fait, beaucoup de patients vont prendre du poids, parce qu'on en parlera tout à l'heure si vous voulez. La mitochondrie, lorsqu'elle ne fonctionne pas, elle va entraîner des problèmes métaboliques, notamment d'hyperinsulinisme et de surcharge pondérale. Okay? Donc, alors, pour la dépression, évidemment, on sait que la mitochondrie, lorsqu'elle fonctionne pas bien, elle va créer des stress oxydants au niveau de certains neurones qui vont entraîner la dépression. Aujourd'hui, on sait que la dépression est liée à la mort accélérée de certains neurones du système émotionnel.
C'est fou de savoir qu'il y a autant de choses qui soient liées. Faut penser à son microbiote, faut penser à ses déséquilibres hormonaux, il faut penser à plein de choses.
À notre alimentation. C'est-à-dire, il faut revenir aux origines. Alors, moi, je suis un fervent fan d'un génie de la médecine qui s'appelle Hippocrate.
On l'a cité quelques fois dans le podcast.
Qui est né il y a longtemps avant moi, il y a 2400 ans. Et Mario Kaplan, que j'ai formé en nutrition, se fait un bon également relais de ce concept important. Donc, Mario Kaplan est donc une naturopathe qui a un grand talent de communication et de faire passer des concepts simples et d'éveiller l'intérêt à des choses fondamentales pour la santé. Et en venant se former, elle a ajouté une dimension un peu plus juste et expliqué les principes scientifiques de ce qu'elle disait, qui était souvent juste. Donc voilà. Donc je dis, moi je suis un fervent fan d'Hippocrate qui avait tout compris. Et finalement, c'est retour aux sources. Okay. C'est venir se renourrir aux fondamentaux de la santé. Alors, c'est quoi? C'est bon. D'abord, que ton alimentation soit ta première médecine. Okay. Manger correctement, équilibré, des produits pas transformés. Là, à l'époque, ils ont transformé, il n'y a pas de transformation. Des produits naturels, c'est-à-dire pas pesticidés. Okay. Respirer une air pas polluée. Et il avait dit également que l'activité physique était fondamentale pour la santé. Okay. Que ni les malades, ni les bien portants, ni les enfants ne peuvent se priver d'une activité physique régulière. Il avait absolument raison. À l'époque également, on allait dormir au rythme du jour et de la nuit, c'est-à-dire on vivait en raccord avec les cycles nictéméraux de la lumière. C'est vers quoi on doit aller si on veut récupérer la santé. c'est compliqué. On est dans un monde où toutes ces bases ont complètement disparu. Okay. On vit autant la nuit que le jour. On est complètement contaminé, agressé par les écrans qui perturbent nos cycles nictiméraux. On respire de l'eau polluée. On boit de l'eau polluée contenant des tonnes de pesticides, de métaux lourds et de PFAS dont on pourrait parler. Les PFAS sont des toxines mitochondriales. Et donc voilà, on doit absolument revenir aux sources de la base de la santé, revenir aux racines de la santé. Et je pense que c'est le seul moyen de pouvoir rendre un espoir que l'humanité puisse évoluer. Il faut arrêter cet hyperconsumérisme. Et vous devez savoir que quand on regarde une des conséquences également du parc mitochondrial fonctionnel, c'est l'émergence de cancers, de maladies neurodégénératives. Et est-ce que vous savez que le nombre de cancers en 19 ans augmentait très lentement? Et c'est à partir de 1950 que ça a commencé à monter en flèche. Et ça continue, puisqu'on estime que d'ici 10 ans, il y aura 16% en plus de morts par cancer. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1950, Noémie?
L'agroalimentation.
Absolument. Il y a une décision qu'on allait passer d'un système de société de consommation, okay, qu'il fallait nourrir une croissance continue, okay, donc un nombre augmenté de bouches à nourrir, et donc il fallait que le produit de la terre soit exclusivement destiné à l'humain. L'humain n'a pas compris qu'on était dans un équilibre avec d'autres organismes vivants et que la nourriture, on devait la partager. En utilisant des pesticides, c'est-à-dire des molécules anti-vie détruire les nuisibles. Les nuisibles, ce sont des bactéries, des champignons, des rongeurs, etc., qui sont très proches de nous, hein, puisque beaucoup de médicaments sont testés d'abord chez les rats et les souris avant d'être donnés chez l'homme. Et là, on donne des médicaments, des molécules qui tuent les rats, et on a été idiots au point de penser que ça n'allait pas nous faire du tort. Mmh. Mais ça nous revient comme un boomerang en plein dans la tronche, hein, Noémie. Donc voilà, et la première victime de ça, c'est le parc mitochondrial. Donc, depuis 1950, l'utilisation abusive de pesticides, okay, de métaux lourds dans l'industrie multiples et variées, et de plastique, est en train de complètement décimer le parc mitochondrial de chacun.
On arrive aussi à un peu mieux à diagnostiquer certaines choses et à retrouver les causes. J'ai appris qu'il existe des dysfonctionnements mitochondriaux, comme la mitochondriopathie. Et j'ai lu qu'il y aurait même un lien entre la mitochondriopathie, le Covid long et le syndrome post-vaccinal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent fatigués dans ces cas-là. Du coup, c'est un peu dur aussi de savoir si c'est vraiment les mitochondries qui sont au cœur de ça. Comment on fait la différence?
Noémie, mettez-vous dans la tête, définitivement, que tout aboutit à la mitochondrie.
Vous disiez « merde toutes les médecines ».
Mère de toutes les médecines. Hein. La maman de toutes, oui, les médecines. Oui. Les mitochondries, en fait, on peut s'en occuper si on comprend pourquoi elles ne fonctionnent pas bien. Et alors, donc, mère de toutes les médecines, les mitochondries viennent, on parle de mère, exclusivement de notre maman. Vous saviez ça?
Parce que c'est la maman qui a...
Et oui, je voulais parler, en fait, parce que parler de mitochondriopathie. Ouais. Au départ, donc, les mitochondries viennent toutes de notre maman. Vous n'avez aucune mitochondrie, ou très très peu, parce qu'on pense qu'il pourrait y en avoir parfois, mais ce n'est pas une bonne nouvelle, de votre maman. On avait vu que parfois, il y avait des mitochondries qui étaient transmises à l'enfant, qui étaient mutées. Et ça donnait naissance à des maladies héréditaires transmises exclusivement par la maman, qui sont les maladies mitochondriales héréditaires. Dans le génome mitochondrial, je vous ai parlé de 3,2 milliards de lettres. Mitochondrie, c'est 16 000 lettres. C'est pas beaucoup par rapport à 3 milliards. Okay. Et là, il y a, par 22 000 recettes, il y a 13 recettes. Mais pour des éléments majeurs, des moulins dont je vous parlais de la scène de phosphorylation oxydative. S'il y a une mutation dans ces moulins qui ne fonctionne pas bien, que l'électron tombe prématurément, l'oxygène qui le voit, qui est complètement passionné, va sauter sur l'électron et former des radicaux libres. Mmh. Les maladies mitochondriales, leurs symptômes sont souvent la conséquence du dysfonctionnement des organes qui utilisent beaucoup d'énergie. Le cerveau, les muscles, le cœur, hein, les myopathies, etc. Et les organes d'essence, l'œil, les oreilles, etc. On le disait tout à l'heure, en 1 300 000 d'années, la mitochondrie s'est vue attribuer de nouvelles fonctions. Par contre, elle a besoin de nouvelles protéines. Et ces protéines, elles viennent du génome nucléaire, du noyau de la cellule. Il y a environ 500 nouvelles protéines qui vont être produites dans le cytoplasme et transmises à la mitochondrie pour faire ce taf, ce travail. Notamment, la synthèse d'hormones stéroïdiennes, nouvelle fonction. Okay. Mais également, il va y avoir comme fonction la détoxication de l'ammoniac pour produire de l'urée. La mitochondrie s'est également confiée la mission, lorsqu'elle dysfonctionne trop, d'avoir la responsabilité de décider que la cellule doit se suicider. À un moment donné, donc vous avez une communauté de 100 000 milliards de cellules hein, qui forment ce qui vous êtes, qui je suis. Vous savez que à chaque seconde, hein, 2 300 000 cellules se divisent, remplacer 2 300 000 cellules qui meurent. Okay? Donc c'est quelque chose d'extrêmement... Nous sommes enchantés en continuelle construction, déconstruction. Hein? Dans un monde, on n'aurait plus aucune cellule de la peau ici. Hein? Elles seront toutes nouvelles. Il faut 30 jours pour que la cellule de la base de l'épiderme arrive et meure au niveau de la superficie. Dans 12 heures, on n'aurait plus aucune cellule d'estomac. Elles auront été renouvelées. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, s'il y a dans une cellule de mitochondrie qui fonctionne par vie et qui produit beaucoup de radicaux libres, qui potentiellement peuvent créer des mutations, certaines mutations, c'est-à-dire des modifications de la recette, pouvant être oncogéniques. Oncogéniques, ça veut dire qu'ils génèrent le cancer, oncos. Okay? Eh bien, si la cellule voit que ces mitochondries sont en feu, que les mitochondries commencent à brûler, c'est-à-dire à flamber par les radicaux libres, le risque que c'est les braises et les radicaux libres arrivent dans le génome, créent des mutations tellement importantes que la mitochondrie décide d'envoyer un message de mort, une mort propre qu'on appelle apoptose. C'est fondamental. Donc finalement, ici, on est dans une situation où la mort est nécessaire à la vie.
C'est beaucoup de signaux aussi entre tout ça. Et moi, là, tout de suite, je me dis, c'est aussi dur de savoir, nous, en tant que personne, comment on fait pour se dire, là, le signaux de mon corps, il est en train de me dire que ça va pas du tout. Et je me pose la question, mais au final, vous avez fait quand même une sorte de checklist à la fin de votre livre d'auto-évaluation.
Tout à fait.
Je l'ai faite.
Oui.
Et c'était pas jojo les résultats. Donc il y avait plusieurs catégories, énergie, digestion, humeur, là, en fait tout ce qu'on a mentionné, les domaines où ça aurait des liens. Et du coup 12 choses que j'ai cochées, ça veut dire que j'ai probablement un déséquilibre mitochondrial. Et donc dans ce cas-là, on fait quoi?
Ah ben dans ce cas-là, on va d'abord évaluer. À votre avis, qu'est-ce qu'on va évaluer d'abord?
Si j'ai pas une dysbiose.
Voilà, votre microbiote. Alors, microbiote, vous allez savoir si vous, on peut faire une analyse du microbiote sous une analyse de sel, on peut doser dans les urines des métabolites, mais on peut également se poser la question sur notre fonction du digestif. Est-ce que vous avez des ballonnements? Après avoir mangé, est-ce que vous avez l'impression que l'intestin gonfle? S'il gonfle, ça veut dire que vous donnez trop à manger à votre microbiote, c'est-à-dire que vous ne digérez pas bien. Ça veut dire que vous allez déséquilibrer. Et même avoir trop de bonnes bactéries, c'est pas bien. Parce qu'une bactérie, vous allez savoir, elle, tant qu'elle a mangé et de l'espace, elle se divise. Okay? Donc, même des bonnes bactéries, en excès, peuvent avoir un effet délétère. Deuxièmement, quand la bactérie va manger, elle produit des déchets gazeux. Des gaz, c'est qui donnent les ballonnements et qui vont donner ce qu'on appelle des éructations orales ou des flatulences. Okay? Si les flatulences n'ont pas d'odeur, c'est que ce que vous avez mangé en plus n'est pas digéré, ce sont des carbohydrates. Vous avez une hyperfermentation. Si maintenant vous avez des flatulences qui sont très mauvaises, qui sont putrides, le mot l'indique, vous avez fait de la putréfaction. Là, vous avez donner à manger des protéines que vous, qui n'auraient jamais dû arriver là, parce que soit vous avez mangé trop vite, soit parce que vous étiez stressé, soit parce que vous êtes sous omeprazole et qu'on a retiré chimiquement votre estomac, et donc ça va créer des problèmes au niveau intestinaux. Okay? Et de l'inflammation, parce que, en fait, un microbiote qui fonctionne pas bien va faire en sorte que la fonction première de la tête, c'est-à-dire absorber et faire barrière à tout ce qui ne devrait pas rentrer, est altérée. Et donc, vous avez des micro-trous. On va parler du syndrome du leaky gut, le syndrome de l'intestin hyperperméable, qui va, en fait, faire rentrer des éléments qui n'auraient jamais dû rentrer, des bactéries, morceaux de bactéries, des protéines. Et vous allez avoir une réponse inflammatoire. La réponse inflammatoire va produire des radicaux libres. L'arme fatale des cellules de nos systèmes immunitaires, c'est produire des radicaux libres pour montrer combien c'est dangereux. L'idée, c'est d'envoyer des bombes, un lance-flammes sur les bactéries. Mais là, comme c'est pas une agression, c'est vous qui avez pas entretenu vos barrières, on va produire des radicaux libres un petit peu inutilement, ok? Et en même temps, pour éteindre l'incendie, on va consommer des antioxydants. Et si c'est tout le temps et qu'il n'y a pas assez d'antioxydants, on va les chercher dans tous les autres tissus. Et à un moment donné, on ne va pas, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, parce que la mitochondrie a besoin d'antioxydants, parce que dans son fonctionnement optimal, quand tout va bien, elle produit des radicaux libres.
Okay? Donc il faut en apporter en continu.
Voilà, il faut en apporter en continu. Et donc, si vous avez un parc mitochondrial qui fonctionne pas bien, la première des choses, c'est est-ce que mon microbiote est top? Est-ce que la communication entre le microbiote et le mitobiote est fonctionnelle ou pas? Donc, ensuite, je vous l'ai dit, nous avons la responsabilité de nourrir nos mitochondries. OK? Donc, vous devez... S'il vous plaît.
Acides gras, il faut...
Il faut des acides gras polyinsaturés, oméga-3, qui donnent une fluidité, parce que, en fait, la nature de l'acide gras détermine la fluidité des membranes. Si une membrane est rigide, ça ne va pas bien. Okay? Et donc, il faut consommer des acides gras oméga-3 allongés, qu'on trouve notamment dans les petits poissons gras. Le problème, aujourd'hui, il est assez existentiel, parce que je mange du poisson qui est complètement affaissé par des pesticides, des métaux lourds, hein, puisque les océans sont un véritable égout, montrant de notre non-respect de la nature, des équilibres. Et en fait, c'est l'effet papillon. Hein. Quand vous jetez n'importe où dans l'environnement en disant « c'est pas grave, c'est pas dilué », ça vous revient. Hein. Ça vous revient, mais pas que le vôtre, que celui de milliards de gens qui ne comprennent pas l'importance de ne pas polluer, notamment les espaces naturels. Donc, à partir de ce moment-là, donc le poisson... Et donc, moi, je conseille à mes patients, plutôt que de manger du poisson, de prendre de l'huile de poisson. Parce que si le poissonnier n'a aucune obligation de vous dire si votre poisson est vierge de pesticides, métaux lourds, PFAS, la société qui vend des compléments, elle est obligée de montrer carte blanche et de montrer que son huile est vierge de la présence de pesticides, de métaux lourds, etc. Donc, ça, c'est une garantie. Donc, s'il y a un nutriment que je prendrais plutôt qu'un aliment, c'est bien les oméga-3.
Pourtant, il y a beaucoup d'experts qui nous disent que d'aller le chercher d'abord dans l'alimentation.
C'est hyper intéressant parce que vous voyez, dans un monde idéal, Noémie, c'est-à-dire dans un monde où vous avez des petits poissons qui mangent du phytoplancton, qui est d'une eau pure, etc., là, sûrement. Et il y a une étude, parce que comme je m'occupe de plusieurs aspects de la santé, j'avais préparé un cours sur l'infertilité, notamment les spermatozoïdes. Parce qu'on n'a pas encore parlé, mais si la maman est celle qui donne les mitochondries à sa progéniture, le spermatozoïde, lui, il a besoin de ses mitochondries pour arriver à l'ovule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'effort incroyable du spermatozoïde pour arriver à l'ovule, il est énorme, colossal. Lorsqu'il est déposé dans le vagin, okay, dans le cul-de-sac vaginal postérieur, pour atteindre l'ovule qui attend le gagnant au tiers externe de la trompe de Fallope, okay, il y a à l'échelle du spermatozoïde la distance Terre-Lune.
C'est très
long. C'est très long. Okay. Alors, il y a en général de moins en moins de spermatozoïdes qui sont déposés, puisqu'on estime qu'il y a 300 000 spermatozoïdes par millilitre de liquide séminal, ça chute, donc il y a environ 1 million, un seul va gagner. Et quand il arrive, ces mitochondries sont complètement brûlées. Hein. C'est comme quand vous avez une voiture qui a roulé à fond pendant 24 heures, le moteur, il est mort. Hein. Il ne peut pas recouler. Donc, c'est bien pour ça que c'est une bonne chose que les mitochondries restent dehors. Parce que sinon, le fœtus, l'enfant, naîtrait avec les mitochondries brûlées. Okay. Alors que la maman les a pouponnées, etc. La maman est nourricière, hein, on sait bien. Hein, donc, voilà. Et donc, les mitochondries sont fondamentales pour la fertilité du spermatozoïde. OK. Et on s'est rendu compte que lorsque il y a des carences en antioxydants, il va y avoir des problèmes de fertilité. Il y avait un lien entre stress oxydant, on en parlait tout à l'heure, et fertilité. Eh bien, alors pourquoi je vous raconte ça par rapport à votre déclaration que certains disent qu'il faut manger du poulet, qu'il faut avoir le nutriment par l'aliment, et là, ils se trompent. Donc, il y a une étude où on a étudié le stress oxydant dans le spermatozoïde. Chez une population qui avait désiré manger beaucoup de fruits et légumes par rapport à une autre qui n'en mangeait pas. Eh bien, le sperme de ceux qui mangeaient beaucoup de fruits et légumes était moins fécond que celui qui n'en mangeait pas. Parce que ils mangeaient des fruits et légumes pas bio, pesticidés. Et donc, ils contaminaient les mitochondries de leur spermatozoïde.
Parce que c'est si sensible.
Donc, c'est faux, hein, c'est tout à fait faux. Et alors, vous devez savoir que le contenu on n'a pas encore parlé de micronutritionnel des aliments aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec les aliments d'il y a 50 ans, rien. Rien
hein. Ça, on le répète assez souvent que ça a perdu énormément.
C'est pour ça que je pense que les compléments nutritionnels sont des compléments qui, le plus souvent, sont indispensables, surtout lorsqu'il y a des carences.
On a, du coup, on a mentionné un petit peu la mitophagie. On a mentionné quelques solutions pour ménager nos mitochondries. Mitophagie, je sais que ça ressemble un peu à l'autophagie que j'ai appris dans un épisode sur le jeûne. Est-ce que, du coup, l'alimentation, stimule la mitophagie? Ou c'est de l'activité physique? Qu'est-ce qui fait que ça stimule?
Il y a beaucoup de choses. Alors, vous devez savoir que la cellule a mis au point des systèmes pour détecter les mitochondries qui sont les moins performantes. OK? C'est-à-dire, une mitochondrie qui produit beaucoup de radicaux libres et peu d'ATP, elle va être étiquetée et l'étiquette va indiquer qu'elle doit être recyclée, c'est-à-dire détruite par mitophagie. OK? Alors, le problème, c'est que comment les repérer? Parce que dans les milliers de mitochondries de vos cellules-là, si la cellule doit faire un effort, ce sont souvent les plus performantes qui vont au travail. Et les moins performantes disent « Allez-y, les jeunes, c'est pour vous. Okay? » Donc, par contre, si l'organisme est mis dans une situation où toutes les mitochondries doivent participer, par exemple, on va parler d'activité physique intermittente. Okay? Donc, vous trottinez, et là, bon, pas vite, etc., à plat. Et là, vous allez utiliser vos mitochondries les plus performantes. Et puis, pendant 2 minutes, vous allez accélérer. Et à ce moment-là, vous allez approcher de votre VO2 max. Vous avez entendu parler de la VO2 max?
Oui, on en a parlé dans un épisode sur la longévité, justement.
La VO2 max correspond à la performance de votre parc mitochondrial, c'est-à-dire combien d'oxygène peut être consommé parce que vos mitochondries vont l'utiliser. OK? Et moins vos mitochondries sont performantes, c'est-à-dire moins votre VO2 max sera élevé. Donc, si vous allez flirter avec la VO2 max, toutes les mitochondries vont devoir y aller, même les moins performantes. Mais les moins performantes, elles vont montrer qu'elles sont pas top. Donc, elles vont tousser. Quand je dis tousser, elles vont produire des radicaux libres. Et ces radicaux libres vont entraîner leur marquage, leur étiquetage dans un système complexe qu'on appelle la polybutylation, qui va déclencher plus tard dans la journée leur destruction. Et les mitochondries les plus performantes seront invitées à se diviser par fission. Mais on n'a pas fini les nutriments.
Ah bah les nutriments, en fait, j'ai même une liste très longue de micronutriments, en tout cas.
Parce qu'on parlait de votre canne, vous avez un mauvais score, hein, bonjour.
Ouais,
j'aimerais quand même... profiter de vous donner un peu.
Bah oui, en tout cas de savoir qu'est-ce que je dois faire.
Votre microbiote.
Mais ça, j'ai compris.
Et qu'est-ce que vous devez faire pour un bon microbiote? Vous avez compris, mais qu'est-ce que voilà. Allez.
Il faut que je sache si ma barrière intestinale elle est.
Non, mais cliniquement, pour assurer que votre tube digestif fonctionne bien, qu'est-ce que vous pouvez donner à vos auditeurs pour qu'ils sachent?
Yeah.
Alors, on va dire vous avez un mauvais microbiote.
Ouais.
Ok. Qu'est-ce que vous allez leur conseiller pour?
Bah, il y a des tests qui existent.
Non, mais sans test. On fera des tests pour être. Après, on va être précis. Je vous en parlerai plus tard. Ça.
De solutions là.
Oui, pratico-pratique.
Bah déjà, faut savoir si on a des ballonnements ou pas.
Oui, non, mais vous avez des ballonnements, vous avez des flatulences qui sentent mauvais, vous avez une haleine parfois putride, vous avez une dysbiose de putréfaction. Qu'est-ce que vous faites?
Je
suis sûr, il y a beaucoup de vos auditrices qui vont se reconnaître.
Bah, je sais que c'est le cas, oui, mais je sais pas du tout, en tout cas moi.
Bah la première chose que vous allez faire, hein, d'abord, c'est de supprimer les aliments ultra transformés. Au moins de moitié. Parce que c'est quasi impossible de ne pas avoir d'aliments ultra transformés. Deux, vous allez privilégier que quand vous mangez, vous prenez le temps de manger et vous mastiquez. Hein? On a des dents, c'est pour mastiquer. Hein? Okay? Donc vous allez manger lentement et n'avaler l'aliment solide que lorsque vous allez avoir la consistance d'une panade. Okay? Mmh. Vous allez limiter les protéines si vous avez été stressé avant. Et manger des petites quantités de protéines.
Donc, il faut en manger moins.
Si vous êtes stressé, vous en mangez moins, évidemment.
Ah ouais.
Pas manger un gros steak, après, vous êtes pris la tête avec votre employé ou votre conjoint. Okay?
Donc, si on est stressé, mangez léger.
Oui. Et manger léger, surtout pas de protéines. Et les protéines se mangent en début de journée, pas le soir. Okay? Parce qu'on digère moins.
C'est trop lourd et c'est
trop bien. On digère moins bien. Et puis, on demande un travail supplémentaire au corps qui, normalement, pendant la nuit, est en reconstruction et en nettoyage. Alors qu'on lui remet une charge supplémentaire. Donc ça, voir si vous n'êtes pas sous médicaments anti-acides, hein, IPP. Par exemple, il y a des gens stressés qui prennent des IPP, hein, oméprazole et tutti quanti, et qui suppriment leur estomac. Donc c'est sûr qu'ils ne vont pas digérer. On n'a plus d'acide. L'acide sert à ce que l'enzyme qui coupe les protéines fonctionne. Quand le pH augmente, eh bien, il n'y a plus. Vous n'avez plus d'acidité, mais vous ne digérez plus. Et là, le problème se déplace de l'estomac vers l'intestin, parce que comme les protéines ne sont pas digérées, elles ne sont pas absorbées, elles vont aller nourrir les mauvaises bactéries, les particules de putréfaction. C'est ça qui vous donne la mauvaise haleine et les odeurs qui font que vous êtes rarement piqué par des moustiques. Parce que
je fais attention à mes repas.
Repas, voilà, mangez moins, hein. Mangez lentement. Si vous mangez lentement, vous mangerez moins, etc. Et vous allez nourrir vos bonnes bactéries.
Mangez
des prébiotiques.
Ah oui.
Hein. C'est-à-dire de l'asperge, des brocolis, des artichauts, du topinambour.
Tout ce qui est vert.
Tout ce qui est vert, mais également orange, etc. Et du bio, évidemment, parce que les pesticides sont bactéricides pour les bonnes bactéries. Hein, par exemple, le glyphosate qu'on a dans le désherbant.
Ouais.
Eh bien, il est toxique pour les bonnes mitochondries. Essayez de boire de l'eau purifiée.
Mm-hmm. Hein,
filtrée si possible. La mer eau, c'est l'eau osmosée, hein, l'osmose reverse, qui est reminéralisée par la suite. Et puis, donc déjà, ça va vous aider. Et puis, si ça ne va pas comme ça, alors je vous invite à faire un bilan.
Quel bilan?
Un bilan. Certains laboratoires se sont spécialisés. Moi, je travaille ici. Nous sommes au laboratoire LIMS MBNX, dont je suis le président du comité scientifique. Et justement, à l'occasion de la sortie de mon livre, j'ai créé un bilan d'investigation préventive mitochondrie 1.0, parce qu'il va évoluer. On va doser les acides gras.
Pour savoir
s'il y a suffisamment d'acides gras polyinsaturés oméga 3. Et alors, ce qui est intéressant également, c'est assez d'acides gras saturés à nombre impair produits par le microbiote qu'on trouve essentiellement dans les produits laitiers, notamment le lait entier.
Mmh.
Hein, c'est assez intéressant, et on en reparlera une autre fois, mais je pense aussi que Marion, qui a interviewé la vétérinaire, qui a démontré que les acides gras étaient fondamentaux pour la santé et la longévité, qui étaient anti-diabète, eh bien, ils agissent sur la mitochondrie, ils stabilisent les membranes des mitochondries, donc les oméga-3, etc. Et puis alors, on va doser dans ce bilan le statut martial, le fer.
Ah oui, d'accord.
Alors, le fer est important pour l'énergie. D'abord, il transporte l'oxygène dans l'hémoglobine, mais également, il fait partie intégrante de la chaîne de phosphorylation oxydative dont on a parlé tout à l'heure. Okay ? S'il n'y a pas de fer, ça ne fonctionne pas. Et on parle de statut martial parce que la légende dit, le mythe dit que Mars, le dieu Mars, Mars de la guerre, trempait le glaive en fer de son soldat dans le vin qu'il faisait boire pour augmenter le retour de fer, pour être plus fort. On va doser également la vitamine D, qui est mitochondrio-stimulante.
D'accord.
Elle stimule la biogenèse. Il y a des récepteurs à la vitamine D dans la mitochondrie. Et donc ça, on pourra parler de la mitochondrie. Je pourrais vous parler 3 heures sur la vitamine D, pardon. La vitamine A, qui est nécessaire pour la vitamine D, fonctionne parce que ces deux-là fonctionnent en couple. S'il n'y a pas de vitamine A, la vitamine D, elle ne peut rien faire. Okay ? On va doser le magnésium, le sélénium.
On dose le magnésium ?
Oui, le magnésium érythrocytaire,
ah ouais,
qui est un beau reflet. Même s'il y a cette débattue que ce n'est pas vraiment très fiable. Mais bon, voilà.
J'ai entendu, c'est pour ça.
Mais quand même, c'est-à-dire que c'est pas... Quand il n'y en a pas du tout, c'est très fiable. Quand il y en a parfois un taux normal, c'est moins fiable. Mais en tout cas, quand il y a très peu, c'est un peu comme votre compte en banque. Quand il y a très très peu, ça se bloque.
OK. Donc, acide gras, fer, vitamine D.
Vitamine A.
Vitamine A, magnésium.
Magnésium, sélénium.
Ouais.
Cuivre, zinc. Ce sont des cofacteurs importants pour le fonctionnement de systèmes anti-incendie, antioxydants de la mitochondrie. OK. On va doser le glutathion, un antioxydant majeur qui recycle les autres. La vitamine E, très important, c'est un antioxydant lipophile qui va protéger les membranes. Et comme elles sont riches en acides gras polyinsaturés, elles sont très, très sensibles à l'oxydation. Et le coenzyme Q10.
Et donc ça, c'est dans le bilan. Ouais. Et donc, on va regarder du coup si c'est dans des niveaux optimaux.
Voilà. Et on va voir également si vous souffrez de stress oxydant. Qui sont une indication que vous êtes déjà un peu avancé, notamment vous avez la 8-hydroxyguanosine, la 8-OHDG, c'est-à-dire le radical le plus délétère, c'est le radical hydroxyle, okay, OH pointé, et il adore aller oxyder la lettre G, la guanosine, qui va être éliminée sous forme de 8-hydroxyguanosine, qui est un reflet de l'agression radicale de notre ADN et qui est un signe de vieillissement accéléré et de maladies genre cancer, etc.
Et après, avec ce bilan-là,
on va pouvoir avoir une stratégie personnalisée juste. La médecine que je préconise, c'est la médecine 4P.
4P ?
4P. Le premier P, la prévention. Intervenir avant la maladie. On n'est pas dans un système qui favorise la santé. On a un système qui promeut la maladie et le soin de la maladie. Le business model, c'est il faut des malades pour faire tourner les hôpitaux et nourrir le compte en banque du Big Pharma. Personne ne peut dire que ce n'est pas vrai, c'est vrai, c'est comme ça.
Donc c'est aujourd'hui qu'il faut vraiment faire attention.
Donc prévention, ne pas tomber malade avant des lésions. Et on a dit, et par exemple, vous qui avez un score de 12, ben ça vaut peut-être la peine de comprendre pourquoi. Deuxième P, la personnalisation. Noémie, vous avez 12, peut-être notre caméraman est à 12, c'est pour des raisons complètement différentes. La stratégie one size fit all, qui correspond tellement bien pour faire de l'argent pour le Big Pharma, même 12 médicaments tout le monde, T-shirt one size pour tout le monde, ça marche pas. On est tous différents. On est tous différents par rapport à notre histoire, par rapport à notre génétique, par rapport à notre épigénétique, par rapport à notre microbiote. Et donc voilà, il faut traiter le patient. Donc on traite un malade, pas une maladie. Le troisième pied, la précision. Grâce à des bilans, on va aller voir ce qui est bon, ce qui est dans les zones santé, ce qui est hors zone santé. Les zones santé ne sont pas nécessairement les normes. C'est-à-dire, normalement, les laboratoires font des normes, on prend 100 personnes ou 1000, on détermine le percentile 85 et 15, et on considère que tous ceux qui se trouvent là, c'est bien. que c'est pour la moyenne, mais vous n'êtes pas une moyenne. Quand vous allez chez le médecin, vous n'êtes pas 1000, vous êtes toute seule. Mmh. C'est vous qui devez soigner, pas les 1000. Okay. Mmh. S'il doit soigner les 1000, c'est vrai qu'il donne une dose, il y a une majorité qui ira bien. Il y en a qui vont mourir de la dose, il y en a qui n'auront aucun effet. Mais la majorité sera contente. Mais vous, si vous avez fait partie de ceux qui vont avoir une toxicité aiguë, vous n'allez pas être content. Donc la personnalisation et la précision. Et quatrième P, last but not least, la participation du patient. Le patient
actif
est maître de sa santé, il est responsable de sa santé. On ne peut pas faire le bien aux gens malgré eux. Si les gens ne suivent pas vos recommandations, moi je dis à mes patients, si vous ne faites pas ce que je vous ai dit de faire, ne revenez plus me voir déjà, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. N'achetez pas les compléments, ça ne servira à rien, ok?
Si et ne faites pas d'analyse. Ouais.
Non, mais s'il n'y a pas, parce que vous parlez de votre barrière intestinale, si on a des suspicions, on peut évaluer, il y a un dosage qui est la LBP, pour l'hypopolysaccharide binding protein, qui témoigne que votre intestin est une passoire, mais qui a laissé passer en plus des bactéries gram moins qui créent une inflammation de Bagrat. Et on parle d'endotoxémie métabolique qui, à mon avis, est à l'origine de beaucoup de pathologies. Mmh. Même si à la fin, on arrive à quoi?
Un parc mitochondrial qui
est endommagé. Un parc mitochondrial. Et il sera endommagé pourquoi s'il y a une inflammation de Bagrat?
À cause de l'oxydation et des radicaux.
Bah, check, c'est bien.
Si.
Oh. Ah, si, c'est bien. Ouais, voilà. Oui. On arrive au parc mitochondrial sur les oxydants. Et donc, on dose la LBP. Et si vous avez une LBP augmentée, là, il faudra intervenir en reconstruisant votre barrière intestinale, hein, qui consomme beaucoup d'énergie également. Il y a beaucoup de mitochondries dans l'intestin. Et l'intestin se renouvelle toutes les 36 heures. Donc, il y a un travail, un chantier tout le temps. Il faut apporter les nutriments. Et ça dépend de votre microbiote, évidemment. Hein. Pour ça qu'on veut dire que si vous avez un bon microbiote, vous avez un bon mitobiote. Si et seulement si, votre mitobiote est nourri correctement. Il faut de la vitamine B1, B2, B3, B5 doivent être apportés absolument. Ce sont tous les jours. Ce sont des vitamines hydrosolubles qui ne s'accumulent pas.
Oui, parce qu'elles partent.
Alors, généralement, si on mange correctement, il n'y a pas beaucoup de carences. Par contre, si on a des problèmes neurologiques, on peut doser aussi ces vitamines-là. Okay? Mais ce sont des vitamines dont la technique de dosage est un peu compliquée et ça coûte cher. Donc, de base, dans ce bip de base, on a mis des éléments dont on sait qu'ils sont souvent perturbés. Éventuellement, c'est fatigué, on peut prendre d'emblée le coenzyme Q10. Vous avez déjà entendu parler du coenzyme?
Ouais, justement, j'avais fait une liste de tout ce que vous avez mentionné dans votre livre, en micronutriments, et je voulais qu'on regarde, on passe en revue.
Allons-y.
Comme ça, on fait deux, trois phrases par micronutriments.
Ouais.
Alors, du coup, le premier que j'avais, c'était la coenzyme Q10.
Le coenzyme Q10, c'est une molécule extrêmement importante que nous produisons nous-mêmes, sauf si le médecin vous donne un médicament qui bloque sa production, c'est-à-dire les statines. Cette molécule fait passer l'électron du premier au deuxième moulin, et ce sont des électrons très très chauds. En plus, il peut servir d'antioxydant, capter des radicaux libres, donc il est extrêmement important, et malheureusement, sa production diminue avec l'âge, donc en plus, vous prenez
à partir de quel âge?
À partir de 60 ans, donc il y a une diminution, comme le glutathion d'ailleurs. Et là, c'est intéressant de supplémenter, surtout.
Donc à partir de 60 ans.
À partir de 60 ans, on peut supplémenter, mais mieux vaut, moi, je ne supplémente que lorsque je vois une carence.
OK. Donc pas tout
de suite. J'ai dit, je fais une médecine personnalisée. Mmh. Pas de supplémentation à l'aveugle, top of the line.
Non. Si c'est pas
ça peut être dangereux.
OK. Donc le deuxième, c'est NADH.
NADH. NADH, c'est une des molécules les plus importantes de votre vie. C'est un transporteur d'électrons d'énergie. En fait, on n'a pas vu, mais dans le processus d'extraction d'énergie du pyruvate, il y a un moulin qu'on appelle le cycle de Krebs qui arrache les électrons d'énergie pour aller les amener au moulin dont on a parlé, à la chaîne de phosphorylation oxydative. Mais l'électron, il doit être protégé, il doit être pris dans un camion, car s'il est tout seul, l'oxygène, elle saute dessus, comme une idiote. Mmh. Okay? Elle n'a pas patiente. Et donc, ce NAD, il se construit à partir de la vitamine B3 ou niacine. Il y a certaines firmes qui l'ont comme complément. C'est assez cher, parce que c'est dur à produire, mais ça peut être utile, mais mieux vaut surtout l'avoir de la niacine.
OK. La niacine, c'est une vitamine B3.
B3.
Ouais, c'est ça. Bah justement, le prochain, c'est vitamine B. Il y en a plein. Il y avait B1, B2, B3, B5, B9, B12.
Voilà. Alors, la B1, c'est la thiamine. Elle est importante pour faire entrer le purva dans la mitochondrie. Une carence peut entraîner un ralentissement de la glycolyse et une hyperglycémie, donc un syndrome métabolique, un diabète. Okay. La B2, elle est précurseur d'un transporteur aux électrons un peu plus chaud, moins chaud que celui transporté par les NAD. C'est la riboflavine. Mm-hmm. Okay. La B3, c'est la niacine, on en parlait, qui produit le NADH. La B5, elle est hyper importante parce que elle est le précurseur du coenzyme. Le coenzyme, c'est celui qui gère tout ce qui est acide gras pour le faire entrer dans la mitochondrie. Donc, c'est acétylcoenzyme, etc. C'est hyper important. Voilà. B5, là aussi, on en peut consommer tous les jours. La B6, c'est pyridoxale 5-phosphate, pyridoxamine. Toutes ces vitamines doivent être activées par une phosphorylation d'ailleurs, il faut l'ATP. Et la B6, elle sert à la synthèse du glutathion, mmh. un antioxydant important. Et la B9, la B12, elle sert à la reméthylation de l'homocystine en méthionine, qui va jouer un rôle extrêmement important dans le fonctionnement des mitochondries et dans la régulation épigénique.
Et c'est pas, il n'y a pas quelque chose où il faudrait qu'elle soit méthylée ou pour que.
Oui, pour la reméthylation du cycle de l'homocystine, elle doit être méthylée. Dans la mitochondrie, elle doit être phosphorylée. On a l'adénocobalamine.
Ensuite, j'ai PQQ. J'en ai pas entendu beaucoup parler.
La plasoquinone, c'est une molécule, un antioxydant qu'on ne produit pas nous-mêmes, qui vient des plantes, qu'on peut ajouter comme nutriments et qui a un support très efficace aux coenzymes Q10.
Ah d'accord, donc c'est bien de...
Oui, c'est bien, oui.
Ensuite, l'acide alpha-lipoïque.
L'acide alpha-lipoïque, molécule fondamentale également, c'est, on peut dire, c'est le maître antioxydant. Un antioxydant, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un électron. Hein, le radical libre, l'agent oxydant, il vole un électron. Et par exemple, si moi je suis un radical libre, hein, et que vos yeux... ce sont les électrons, je vais vous voler un électron. Mmh. Et l'antioxydant dit non, tiens, prends le mien. Mmh. Hein? Donc il vous protège. Mmh. Par contre, à la fin, si j'ai donné tous mes yeux, il faut que j'aille me remettre des yeux, sinon je ne peux plus travailler. Eh bien, l'acide alpha-lipoïque va rendre l'électron à l'antioxydant qui a été oxydé. Hein? Un antioxydant, quand il fait son travail, il est oxydé après. Il doit aller chercher un électron pour être réduit. Quand on gagne un électron, on est réduit. Okay. L'acide alpha-lipoïque, on produit également nous-mêmes, et il est même utilisé comme médicament anti-polyneuropathie diabétique qui souffre, ces patients souffrent beaucoup de stress oxydant. Donc ça, c'est hyper intéressant.
On trouve dans l'alimentation ou pas?
On trouve dans, pas en grosse quantité, on trouve dans les jeunes pousses d'épinards, dans le brocoli, etc. On en trouve un peu.
Ok. La prochaine, c'est vitamine E.
Vitamine E. La vitamine E, c'est pas une molécule, ce sont 8 molécules qui sont semblables, qu'on appelle des isomères. Il y a 4 tocophérols, 4 tocotriénols. Ces vitamines sont essentielles en quantité optimale, pas trop, parce que si vous avez trop d'un antioxydant et qu'il vous manque celui qui les recycle, l'antioxydant qui a perdu ses yeux, il devient oxydant lui-même. Donc on peut avoir l'effet contraire à ce qu'on voulait. Ces 4 molécules sont importantes parce qu'elles protègent les membranes des radicaux libres.
D'accord. Ensuite, j'ai les phytoestrogènes. Là, je savais pas trop au niveau des...
La génisine est un alpha-œstrogène alpha-mimétique qui va, en substituant aux œstrogènes qui montent dans la ménopause, va stimuler la biogénèse mitochondriale.
Et j'ai vu qu'on en trouve pas mal dans le soja, etc.
Oui, absolument.
On nous dit de pas...
Ah, c'est une erreur. L'inicine est un puissant protecteur du cancer du sein.
Ah oui.
Donc, ouais. Et du cancer en général, on peut, parce que c'est également le plus puissant inhibiteur naturel des tyrosines kinases. Il est utilisé dans le cancer du pancréas, du côlon, etc. Donc, il y a, en plus d'être un phytoestrogène, et c'est vrai que si on isole que cette activité, ça peut faire peur, mais il y a tellement d'autres activités anti-cancer que finalement, le résultat global est bénéfique anti-cancer.
Ah, ok. Il m'en reste deux. Un, c'est les minéraux oligo-éléments, donc sélénium, zinc, cuivre et fer. On en a parlé un petit peu. Zinc, cuivre et sélénium.
Le cuivre et le zinc, c'est les cofacteurs de la superoxydative mutase, une étape de destruction des radicaux libres produits par la mitochondrie. Et le sélénium, c'est le cofacteur d'un autre système enzymatique qui est en train de mettre la superoxyde dismutase, c'est le système de la glutathion peroxydase.
Et du coup, là, on va aller.
Et le glutathion, en vérité, va chuter avec l'âge également. Mais également, il est hyper consommé quand vous prenez l'acétaminophène du doliprane. Et on pense que le doliprane que prenaient les patients affectés par le Covid, qui étaient âgés, où le taux de glutathion diminue, a précipité l'hospitalisation en réanimation, l'intubation et la mort des patients. Parce que le glutathion.
Ah oui. Et le dernier, c'est le fameux oméga-3.
L'acide docosaxaénoïque est un acide gras à 22 atomes de carbone, 6 doubles liaisons, et qui garantit la fluidité optimale des membranes pour que ce travail se fasse au mieux. Et là, on sait aujourd'hui que ces oméga-3 seront protégés également pour avoir une certaine stabilité par les acides gras saturés impairs que sont l'acide pentadécanoïque et pentaheptanoïque.
Ça fait beaucoup de mots que je n'ai pas compris.
Acide pentadécanoïque, un acide gras. Normalement, les acides gras ont un nombre pair de carbone. Et on a découvert qu'il y avait des acides gras qui viennent du microbiote, qui ont un nombre impair, qui on trouve dans le lait, qui sont produits dans la chambre de fermentation, et qui stabilisent la membrane des mitochondries.
Ok, maintenant je vois.
Par contre, vous me disiez, parler, parce que peut-être qu'il y en a qui souffrent du syndrome post-Covid, post-vaccinal, syndrome fatigue chronique. Déjà, ça révèle que leur parc mitochondrial n'était pas bien, et que ça a été la goutte d'eau. Et on sait que la protéine Spike a comme conséquence une diminution de la production de coenzyme Q10. On peut aider ces patients après dosage en complémentant avec du glutathion, le précurseur, l'acétylcystéine et du coenzyme Q10.
Voilà. On a pas mal de complexes du coup qui ont ces choses-là ensemble. Il y avait une personne dans la communauté quand j'ai posé des questions qui s'appelle Nathalie qui m'a demandé sur Instagram ce qu'on avait comme produit pour les mitochondries et quels étaient les retours.
Alors, le complexe, ça peut être bien de base, mais le mieux, c'est de savoir ce qui manque le plus. Parce que parfois, l'excès d'un complément peut déséquilibrer ce balai des antioxydants qui doivent aussi être recyclés.
Bon, bah, en tout cas, on sait qu'il faut d'abord voir les bilans pour que ce soit bien personnalisé, bien optimisé. Et on a cité vraiment beaucoup de micronutriments qu'on peut retrouver sur sonnet.fr. On a d'ailleurs réservé un petit code promo pour toutes les nouvelles personnes qui veulent passer commande pour la première fois. Le code, il est très simple, c'est MITO, M-I-T-O 10. Et vous pouvez en profiter jusqu'au 10 juin. Donc, allez-y. Avant qu'on passe à la dernière partie, si on devait retenir qu'une seule habitude pour protéger son parc mitochondrial face aux défis qu'on a mentionnés tout du long, vous privilégieriez quoi ?
Optimiser et pouponner votre microbiote.
C'est très clair en tout cas. La dernière chose que je voulais qu'on fasse ensemble, c'était, j'ai listé quelques idées qui ont été mentionnées par des experts soit chez Sunday, soit dans notre podcast, soit dans la préface de votre livre. Et pour chaque idée, je voudrais que vous me disiez si c'est vrai, si c'est faux, si c'est mal expliqué ou si ça vous inspire. En tout cas, que vous puissiez rajouter quelque chose, votre petite patte dessus. Et donc, on commence avec la première citation. « La santé mitochondriale est présentée comme un pilier central de la longévité et de la lutte contre les maladies chroniques. »
Absolument.
Bah, c'était Alina Lesenich qui a développé du coup les complexes qu'on a là. Le deuxième, c'est avec la mitochondrie, la biologie a trouvé son atome.
Certainement.
C'est Philippe Bobola qui est enseignant conférencier international transdisciplinaire qui est dans la préface de votre livre. Pourquoi du coup atome, c'est avec tout ce qu'on a mentionné.
L'atome, c'est la base de la matière. Donc, mais je pense que la mitochondrie, c'est la base de la vie.
Donc, nos atomes.
Quand je parle de la mitochondrie, je dis la mitochondrie, graine de vie. Donc, ça s'appelle la même chose.
Ensuite, on passe à un autre. C'est plus on a de muscles, plus on a une capacité de brûler les calories au lieu de les accumuler. Mieux que ça, en fait, on multiplie les centrales énergétiques, des petites organelles qu'on appelle mitochondries, grâce à laquelle on fait tout ce qu'on fait quand on bouge, quand on pense, quand on se répand.
Non, je vais mettre un bémol parce que, en vérité, ça dépend quel muscle. On a le muscle d'endurance et le muscle de performance. Hein. Par exemple, les haltérophiles, ils ont des muscles sans mitochondries, ça ne veut pas dire 3 heures. Hein. Les marathons, donc c'est du muscle, de la fibre rouge avec des mitochondries. Donc ça, et ça dépend de l'activité physique que vous faites, qui va augmenter votre métabolisme, notamment votre sensibilité à l'insuline. C'est pas tous les muscles.
Donc quelle activité physique?
L'activité aérobique, hein, la course, la marche, etc. Voilà.
C'était Dr Jean-Paul Curtet qui est dans la préface de votre livre et qu'on a reçu aussi chez Healthwise. On passe à la prochaine, c'est l'inflammation, c'est un mécanisme de défense et de réparation. Mais si cette inflammation perdure dans le temps, elle devient chronique, il va y avoir une répercussion en ce sens sur notre santé. Ce sont des mécanismes qui sont silencieux, qui chuchotent et qui vont grignoter nos cellules, nos mitochondries.
Absolument, on en a parlé, c'est l'inflammation systémique de bas grade, donc chuchotement bas grade, qui se font de manière sournoise et qui va amputer progressivement nos défenses antioxydantes jusqu'à même notre cerveau et entraîner donc le fait que le parc mitochondrial va péricliter.
Donc attention aussi à l'inflammation.
Ah, évident.
Ensuite.
Et l'inflammation commence toujours au niveau de l'intestin. Et là, c'est Hippocrate l'avait vu. Toute maladie commence au niveau des intestins.
On passe à la suivante. C'est le Q10. C'est pour la santé des mitochondries en grande partie. Aujourd'hui, on se rend compte que ça décroît avec le temps. Plus tu vis, plus ton taux de Q10 descend. C'est relativement dur à trouver dans l'alimentation. Et les gens qui prennent des statines, par exemple, ont tendance à avoir des niveaux de Q10 encore plus bas. Tu peux pas avoir des cellules en bonne santé si ta mitochondrie ne fonctionne pas correctement. Donc, le Q10 va venir aider à ce niveau-là.
Vous pensez que je vais dire que c'est bien ou pas?
Vous dites ce que vous voulez.
À votre avis, hein, ben non, à votre avis.
Oui, moi, je pense que c'est...
Évidemment, c'est tout à fait juste.
Mais oui, je savais pas que le Q10 descendait plus tard. Je pensais que ça descendait plus tôt.
Non, plus tard, comme le glutathion. Ça dépend aussi de votre mode de vie. Hein.
Mm.
La règle, Noémie, c'est qu'il n'y a pas de règle.
Ah.
Et c'est ça, le deuxième P, c'est la personnalisation. Vous parlez de statistiques. Hein. Il y a des personnes qui, à 90 ans, ont du cancer du Q10 comme des jeunes de 25 ans.
Donc, ça dépend.
La règle, c'est pour ça qu'il faut faire des bilans.
Je passe à la suivante.
Oui, bien sûr.
Plus on a de force, plus on a de masse musculaire, plus on a de bonnes mitochondries, plus on a un métabolisme globalement qui fonctionne bien et plus l'oxygène est utilisé intelligemment par le corps, moins on a de risques de mourir de toutes causes confondues.
Encore le même bémol, c'est pas la force, c'est l'endurance. Pas la force et l'endurance.
Mais sinon, tout le reste, l'enchaînement de...
Oui, mais la force n'est pas... On peut avoir beaucoup de force et peu d'endurance.
Je passe à la suivante.
Oui.
On a découvert que les mitochondries émettaient de la lumière, c'est complètement dingue.
Absolument, non seulement elles émettent de la lumière, mais elles sont influencées par la lumière. Et il y a aujourd'hui un concept de photobiomodulation qui pourrait être transmise par les microtubules. Donc, c'est toute une ère qui, en fait, est d'abord intéressante par ses résultats cliniques et qui va ouvrir un nouveau champ d'investigation. Et je m'y intéresse de plus en plus.
Ben c'était super intéressant, en tout cas, moi, de découvrir ça. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, je ne sais pas s'il y a des invités qui en ont parlé, mais les mitochondries, ce sont des petites bactéries. Donc, ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit. Vous pouvez deviner qui a dit ça.
Qui a dit ça?
Je pense que c'était Marion Kaplan qui a dit ça. Donc oui, elle nous expliquait que c'était des petites bactéries.
Ce ne sont pas des petites bactéries, c'était des bactéries, voilà. C'est ça.
Ah, bon.
Voilà. Ça c'est... Voilà. Mais bon, enfin voilà quoi. C'est Marion.
Je crois qu'il m'en reste encore quelques-unes. On a des récepteurs à la lumière du jour et nos centrales énergétiques, nos mitochondries, réagissent à ces récepteurs et vont pouvoir produire beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est aussi ce qu'on disait avec la lumière naturelle.
Oui, mais ça, c'est pas... On a un récepteur à la lumière du jour au niveau de la rétine qui communique avec nos centres de production de mélatonine, mais c'est pas à tous les niveaux. Quoi. Il y a un centre nictéméral, donc c'est un peu trop...
Trop vague.
Trop vague, oui.
C'est la dernière. Donc, travailler sur l'énergie, c'est pas que à l'approche de l'hiver, c'est toute l'année. C'est-à-dire que ce n'est pas une semaine que vous allez remonter vos glandes surrénales, votre thyroïde qui est déficiente, vos mitochondries qui ne fonctionnent plus parce que vous êtes sédentaire, parce que vous dormez mal, parce que vous êtes carencé.
Absolument, c'est tout le temps. La santé, ça se gagne tous les jours.
Donc, ce n'est pas par période.
Ah non. Et le pire, c'est les gens, même dangereux, qui font du sport que pendant les vacances. Mais ils font du sport de l'extrême et parfois, ils ne reviennent pas parce que ils ont tellement un parc mitochondrial abîmé que lorsqu'ils demandent un effort supplémentaire, par exemple faire du VTT en montagne, etc., ils reviennent dans un sac. Bon, il y en a beaucoup. Hein.
Donc il faut vraiment...
Il faut entretenir, c'est tous les jours. Activité physique régulière, le mot régulier. Et pour soi régulier, il faut choisir une activité physique qui nous fasse du bien et qui nous plaise.
Eh ben merci pour tout. Je crois qu'on est allé jusqu'à la fin. J'ai vraiment apprécié de discuter avec vous et je pense que on peut applaudir tous les gens qui nous ont suivis jusque là parce que c'est pas forcément.
Ils ont peut-être mal à la tête maintenant. Hein.
Ben oui, mais en tout cas c'est j'espère des bons élèves chez nous. Et j'espère qu'on vous aura aussi intéressé suffisamment pour pouvoir vous plonger dans cet ouvrage Mitochondrie, source d'énergie, de santé et de longévité. C'est sorti aux éditions Guy Trédaniel. Vous avez aussi une actualité bien riche en ce moment, donc c'est aussi intéressant de pouvoir vous suivre sur Instagram et sur votre site internet www.vincenzo-castronovo.com. On mettra aussi tout ce qu'il faut dans la description. Avant de nous quitter, est-ce que vous voulez quand même rajouter un petit mot ?
Je suis toujours ravi de pouvoir communiquer et de pouvoir toucher le plus grand nombre pour vous faire savoir que la santé, c'est notre richesse la plus importante. C'est vraiment quelque chose de fondamental et qu'elle commence, cette richesse, par le pouponnage de notre parc mitochondrial. Même si ça paraît compliqué, c'est tellement fondamental que je pense que c'est vraiment important de s'y intéresser et de le mettre au centre de ses priorités. Voilà.
Merci beaucoup pour ce message et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire, on tâchera d'y répondre, en tout cas avec plaisir. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous avec Sommet Naturel. À bientôt.
À bientôt.
Bon, petite question, c'est la question bonus. Elle est souvent un petit peu indiscrète, donc c'est à vous de voir si vous voulez répondre. Vous prenez quoi comme complément en ce moment ?
En ce moment, je prends toujours des probiotiques, un complément mitochondrial, des oméga 3, de la vitamine D à haute dose tout le temps.
Tout le temps ?
Oui, tout le temps pour avoir un taux optimal au-dessus de 50.
Bon, c'est bien. Je m'attendais à plus, mais c'est les essentiels en tout cas.
C'est les essentiels.
Merci beaucoup.
Voilà, avec plaisir.